Les possédés, première partie, chapitre 4, suite et fin. Debout près de sa porte fermée, Chatov prêtait l'oreille. Tout à coup, il fit un saut en arrière.
« Il vient ici, je m'en doutais »
murmura-t-il avec rage. « À présent, nous n'en serons pas débarrassés avant minuit. » Bientôt retentirent plusieurs coups de poing assénés contre la porte.
« Chatov ! Chatov ! Ouvre !»
commença à crier le capitaine.
« Chatov, mon ami, je suis venu te saluer, te raconter que le soleil est levé, que sous sa brûlante lumière, le bois commence à tressaillir, te raconter que je me suis éveillé, le diable t'emporte, que je me suis éveillé sous la feuillée. « Chatov, comprends-tu qu'il fait bon vivre en ce bas monde ?»«
Ne répondez pas, »
me dit tout bas Chatov.
« Ouvre donc! Comprends-tu qu'il y a quelque chose au-dessus d'une rixe, parmi les humains? Il y a les moments d'un noble personnage. Chatov, je suis bon, je te pardonne. Chatov, au diable les proclamations, hein ?»
Silence.
« Comprends-tu, Anne, que je suis amoureux? J'ai acheté un frac. Regarde un peu ce frac de l'amour. Il a coûté 15 roubles. » L'amour d'un capitaine doit se plier aux convenances mondaines. Ouvre !
Beugla tout à coup les Biatkin, et de nouveau il cogna furieusement à la porte.
Va-t'en au diable ! Cria brusquement Chatov. Esclave ! Serre ! Ta sœur aussi est une esclave et une serve, une voleuse. Et toi, tu as vendu ta sœur ? Tu mens ! Je subis une accusation calomnieuse quand je puis d'un seul mot. Comprends-tu qui elle est ?
Qui est-elle ? Demanda Chatov. Et, curieux, il s'approcha de la porte.
Le comprends-tu ?
Je le comprendrai quand tu me l'auras dit.
J'oserai le dire. J'ose toujours tout dire en public.
C'est bien au plus si tu l'oseras, reprit Chatov, qui espérait le faire parler en irritant son amour-propre, et il me fit signe d'écouter.
« Je n'oserai pas !»«
Je ne le crois pas. »«
Je n'oserai pas !»«
Eh bien, parle, si tu ne crains pas les verges d'une barine. Tu es un poltron, tout capitaine que tu es. »«
Elle est... »
balbutia les Biatkin d'une voix agitée et tremblante. « Allons ?» dit Chatov tendant l'oreille. Il y eut au moins une demi-minute de silence.
« Gredin !»
vociféra enfin le capitaine derrière la porte, puis nous l'entendîmes descendre l'escalier. Il soufflait comme un samovar et trébuchait contre chaque marche.
« Non, c'est un malin, même en état d'ivresse, il sait se taire !»
observa Chatov en s'éloignant de la porte.
« Qu'est-ce qu'il y a donc ?»
demandai-je. Chatov fit un geste d'impatience. Il ouvrit la porte, se mit à écouter sur le palier et descendit même quelques marches tout doucement. Après avoir longtemps prêté l'oreille, il finit par rentrer.
On n'entend rien, il a laissé sa sœur tranquille.
À peine arrivé chez lui, il sera sans doute tombé comme une masse sur le plancher, et maintenant il dort. Vous pouvez vous en aller.
Écoutez, Chatov, que dois-je à présent conclure de tout cela ? Eh ! Concluez ce que vous voudrez !
Me répondit-il d'une voix qui exprimait la lassitude et l'ennui. Ensuite, il s'assit devant son bureau. Je me retirai. Dans mon esprit se fortifiait de plus en plus une idée invraisemblable. Je songeais avec inquiétude à la journée du lendemain. Cette journée du lendemain, c'est-à-dire ce même dimanche où le sort de Stepan Trofimovitch devait être irrévocablement décidé, est une des plus importantes que j'ai à mentionner dans ma chronique. Ce fut une journée pleine d'imprévus, qui dissipa les ténèbres sur plusieurs points et les épaissit sur d'autres, qui dénoua certaines complications et en fit naître de nouvelles. Dans la matinée, le lecteur le sait déjà, j'étais tenu d'accompagner mon amie chez Barbara Petrovna, qui elle-même avait exigé ma présence. Et, à 3 heures de l'après-midi, je devais être chez Elisabeth Nikolaïevna pour lui raconter, je ne savais quoi, et l'aider, je ne savais comment. Toutes ces questions furent tranchées comme personne ne se serait attendu à ce qu'elles le fussent. En un mot, le hasard amena, durant cette journée, les rencontres et les événements les plus étranges. Pour commencer, lorsque nous arrivâmes, Stepan Trofimovitch et moi, chez Barbara Petrovna à midi précis, heure qu'elle nous avait fixée, nous ne la trouvâmes pas. Elle n'était pas encore revenue de la messe. Mon pauvre ami était dans un tel état d'esprit que cette circonstance l'atterra. Presque défaillant, il se laissa tomber sur un fauteuil du salon. Je l'engageai à boire un verre d'eau. Mais, nonobstant sa pâleur et le tremblement de ses mains, il refusa avec dignité. Je ferai remarquer en passant que son costume se distinguait cette fois par une élégance extraordinaire. Sa chemise de batiste brodée était presque une chemise de bal. Il avait une cravate blanche, un chapeau neuf qu'il tenait à la main, des gants jaune paille, et il s'était tant soit peu parfumé. À peine fûmes-nous assis que parut Chatoff, introduit par le valet de chambre. Il était clair que lui aussi avait reçu de Barbara Petrovna une invitation en règle. Stepan Trofimovitch se leva à demi pour lui tendre la main, mais Chatoff, après nous avoir examinés attentivement tous les deux, alla s'asseoir dans un coin, sans même nous faire un signe de tête. Stepan Trofimovitch me regarda de nouveau d'un air inquiet. Plusieurs minutes s'écoulèrent ainsi dans un profond silence. Stepan Trofimovitch se mit soudain à murmurer quelques mots à mon oreille, mais il parlait si bas et si vite que je ne pouvais rien comprendre à ses paroles. Du reste, son agitation ne lui permit pas de continuer. Le valet de chambre entra encore une fois sous couleur d'arranger quelque chose sur la table, mais en réalité, je crois, pour jeter un coup d'œil sur nous. Brusquement, Chatoff l'interpella d'une voix forte. « Alexis Egoritch, savez-vous si Daria Pavlovna est allée avec elle ?» Barbara Petrovna est allée seule à la cathédrale. Daria Pavlovna est restée dans sa chambre. Elle ne se porte pas très bien. Répondit Alexis Egoritch avec la gravité compassée d'un domestique bien stylé. Mon pauvre ami me lança encore un regard anxieux. Cela finit par m'ennuyer à un tel point que je me tournai d'un autre côté. Soudain, retentit le bruit d'une voiture s'approchant du perron, et un certain mouvement dans la maison nous avertit que la générale était de retour. Nous nous levâmes tous précipitamment. Mais une nouvelle surprise nous était réservée. Les pas nombreux que nous entendîmes prouvaient que Barbara Petrovna n'était pas rentrée seule, et cela était déjà assez étrange, attendu qu'elle-même nous avait indiqué cette heure-là. Enfin, nous perçûmes le bruit d'une marche extrêmement rapide, d'une sorte de course qui n'était nullement dans les habitudes de Barbara Petrovna. Et tout à coup, celle-ci, essoufflée, en proie à une agitation extraordinaire, fit irruption dans la chambre. Quelques instants après, entra, beaucoup plus tranquillement, Elisabeth Nikolaïevna, tenant par la main Marie Timofeïevna Lebiatkine. Si j'avais vu la chose en rêve, je n'y aurais pas cru. Pour expliquer un fait si bizarre, il faut que je raconte une aventure singulière survenu une heure auparavant à Barbara Petrovna, pendant qu'elle était à la cathédrale. Je dois d'abord noter que presque toute la ville était à la messe. Quand je dis toute la ville, j'entends, comme bien on pense, les couches supérieures de notre société. On savait que la gouvernante s'y montrerait pour la première fois depuis son arrivée chez nous. Soit dit en passant, le bruit courait déjà qu'elle était libre penseuse et imbue des nouveaux principes. Nos dames n'ignoraient pas non plus que Julie Mikhaïlovna serait vêtue avec un luxe et une élégance extraordinaires. Aussi elle-même faisait-elle assaut de toilettes luxueuses et élégantes. Seule Barbara Petrovna était mise simplement, comme de coutume. Depuis 4 ans, elle s'habillait toujours en noir. Arrivée à la cathédrale, elle alla occuper sa place habituelle, au premier rang à gauche, et un laquais en livrée déposa devant elle un coussin en velours pour les génuflexions. Bref, tout se passa comme à l'ordinaire. Mais on remarqua aussi que, cette fois, elle pria pendant tout l'office avec une ferveur inaccoutumée. Plus tard, quand on se rappela tout, on prétendit même avoir vu des larmes dans ses yeux. À l'issue de la cérémonie, notre archiprêtre, le père Paul, monta en chaire. Ses sermons étaient très goûtés chez nous, et on l'engageait souvent à les faire imprimer, mais il ne pouvait s'y résoudre. Dans la circonstance présente, il parla fort longuement. Pendant qu'il prêchait, une dame arriva à la cathédrale dans une légère voiture de louage, un de ces droschkis du temps passé où les dames ne pouvaient s'asseoir que de côté en se tenant à la ceinture du cocher, ce qui, du reste, ne les empêchait pas d'être secouées comme l'herbe au souffle du vent. Ces véhicules incommodes se rencontrent encore aujourd'hui dans notre ville. Le droschki s'arrêta au coin de la cathédrale, car devant la porte stationnait une foule d'équipages et même de gendarmes. La dame descendit et offrit 4 copecks au cocher.
« Eh bien, tu trouves que ce n'est pas assez, Vanka ?»
s'écria-t-elle en voyant qu'il faisait la grimace. Et elle ajouta d'une voix plaintive « C'est tout ce que j'ai. »
« Allons, que Dieu t'assiste. Je t'ai chargé sans convenir du prix. »
répondit avec un geste de résignation Vanka, dont le regard semblait dire « Toi, ce serait péché de te faire de la peine. » Ensuite, il serra dans son sein sa bourse de cuir, fouetta son cheval et s'éloigna, poursuivi par les lazzi des autres cochers. Les railleries et les marques d'étonnement accompagnèrent aussi la dame pendant tout le temps qu'elle mit à se frayer un passage à travers les équipages et les valets qui encombraient les abords de la cathédrale. Le fait est qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'apparition soudaine d'une semblable personne au milieu de la foule. D'une maigreur maladive, elle boitait un peu et avait le visage excessivement fardé de rouge et de blanc. Quoique le temps fût froid et venteux, elle allait le col nu, la tête nue, sans mouchoir, sans bournou, n'ayant pour tout vêtement qu'une vieille robe de couleur sombre. Dans son chignon était piquée une de ces roses artificielles dont on couronne les chérubins le dimanche des rameaux. Justement, la veille, lors de ma visite chez Marie Timofeyevna, j'avais remarqué dans un coin, au-dessous des icônes, un de ces chérubins dont le chef était ainsi orné de roses en papier. Pour comble, bien que la dame baissât modestement les yeux, elle ne laissait pas d'avoir sur les lèvres un gai et malicieux sourire. Si elle avait encore tardé un instant à pénétrer dans la cathédrale, on lui en aurait peut-être interdit l'entrée. Elle réussit néanmoins à s'y glisser et, une fois dans le temple, continua sa marche à travers la foule des fidèles qui remplissait le saint lieu. Le prédicateur était au milieu de son sermon, et tout le monde l'écoutait avec l'attention la plus recueillie. Cependant, quelques regards curieux se portèrent furtivement vers la nouvelle venue. elle se prosterna jusqu'à terre, inclina son visage fardé sur le pavement de la cathédrale et resta longtemps dans cette position. On aurait dit qu'elle pleurait. Ensuite, elle se releva et ne tarda pas à recouvrer sa bonne humeur. Gaiement, avec tous les signes d'une extrême satisfaction, elle commença à promener ses yeux autour d'elle, contemplant les murs de l'église, examinant les figures des assistants, parfois même se haussant sur la pointe des pieds pour mieux voir certaines dames. À deux reprises, elle eut un petit rire étrange. Le sermon fini, la croix fut offerte à la vénération des fidèles. La gouvernante s'approcha la première pour la baiser. Mais elle n'avait pas fait deux pas qu'elle s'arrêta, avec l'intention évidente de laisser passer Barbara Petrovna, qui, de son côté, s'avançait bravement, sans paraître remarquer qu'il y avait quelqu'un devant elle. Sans doute, l'excessive politesse de Julie Mikhaïlovna cachait une arrière-pensée maligne. Personne ne s'y trompa. La générale Stavrogine, pas plus que les autres. Néanmoins, son assurance ne se démentit point. Imperturbable, elle s'approcha de la croix et, après l'avoir baisée, se dirigea vers la sortie. Son laquais en livrée la précédait pour lui ouvrir un chemin, ce qui du reste était inutile, car tous s'écartaient respectueusement devant elle. Mais, arrivée sur le parvis, Barbara Petrovna dut s'arrêter un instant en face d'un épais rassemblement qui lui barrait le passage. Soudain, une créature, d'un aspect bizarre, une femme portant sur la tête une rose artificielle, fendit la foule et vint s'agenouiller devant la générale. Celle-ci, qui ne perdait pas facilement sa présence d'esprit, surtout en public, la regarda d'un air sévère et imposant. Il faut noter que tout en étant devenue dans ces dernières années fort économe et même avare, Barbara Petrovna ne laissait pas, à l'occasion de faire l'aumône d'une façon très large. Elle était membre d'une société de bienfaisance établie dans la capitale et, récemment, lors d'une famine, elle avait envoyé à Pétersbourg 500 roubles pour les indigents. Enfin, tout dernièrement, avant la nomination du nouveau gouverneur, elle avait entrepris de créer chez nous un comité de dames charitables afin de venir en aide aux femmes en couche les plus nécessiteuses de la ville et de la province. Notre société lui reprochait de faire le bien avec trop d'ostentation, mais la fougue de son caractère, jointe à une rare opiniâtreté, avait presque triomphé de tous les obstacles. Le comité était à peu près organisé, et l'idée primitive prenait des proportions de plus en plus vastes dans l'esprit enthousiasmé de la fondatrice. Déjà, elle rêvait d'établir une société semblable à Moscou et d'en étendre l'action dans toute la Russie. Les choses en étaient là quand tout à coup, von Lambke fut nommé gouverneur en remplacement d'Ivan Osipovitch. La nouvelle gouvernante ne tarda pas, dit-on, à s'exprimer en termes moqueurs au sujet des visées philanthropiques de Barbara Petrovna, qui n'étaient, suivant elle, que d'ambitieuses chimères. Ses propos, considérablement amplifiés, comme il arrive toujours, furent rapportés à Barbara Petrovna. Dieu seul connaît le fond des cœurs, mais je suppose que dans la circonstance présente, la générale était bien aise d'être ainsi arrêtée à la porte de la cathédrale, sachant que la gouvernante passerait tout à l'heure à côté d'elle. Tant mieux, devait-elle se dire, que tout le monde voit, qu'elle voit elle-même combien me sont indifférentes ses critiques sur ma façon de faire la charité. Eh bien, ma chère, que demandez-vous ? Commença Barbara Petrovna après avoir examiné plus attentivement la femme agenouillée devant elle. Troublée, confuse, la solliciteuse regarda timidement celle qui lui parlait, puis tout à coup partit d'un éclat de rire. « Qu'est-ce qu'elle a ? Qui est-elle ? » fit la générale en promenant un regard interrogateur sur le groupe qui l'entourait. Personne ne répondit. Vous êtes malheureuse? Vous avez besoin d'un secours? J'ai besoin... Je suis venue... balbutia la malheureuse d'une voix entrecoupée. Je suis venue seulement pour vous baiser la main. Et elle se remit à rire. Avec le regard câlin des enfants qui veulent obtenir quelque chose, elle tendit le bras pour saisir la main de Barbara Petrovna. Ensuite, comme effrayée, elle ramena brusquement son bras en arrière. Vous n'êtes venue que pour cela ? Dit avec un sourire de compassion Barbara Petrovna. Et, tirant de son porte-monnaie de nacre un assignat de 10 roubles, elle l'offrit à l'inconnu. Celle-ci le prit. Cette rencontre intriguait fort la générale, qui, évidemment, se doutait bien qu'elle n'avait pas affaire à une mendiante de profession. « Eh, voyez donc, elle lui a donné 10 roubles !» remarqua quelqu'un dans la foule. « Donnez-moi votre main !» reprit d'une voix hésitante l'étrange créature, qui serrait avec force entre les doigts de sa main gauche le billet qu'elle venait de recevoir. Comme elle ne le tenait que par un coin, l'assignat flottait au vent. Barbara Petrovna fronça le sourcil, et d'un air sérieux, presque sévère, tendit la main. La malheureuse la baisa avec le plus profond respect, tandis qu'une reconnaissance exaltée mettait une flamme dans ses yeux. Sur ces entrefaites s'approcha la gouvernante, accompagnée d'un grand nombre de dames et de hauts fonctionnaires. Force fut à Julie Mikhaïlovna de s'arrêter durant une minute, tant était compact le groupe qui encombrait le parvis de la cathédrale. « Vous tremblez, vous avez froid !» observa soudain Barbara Petrovna. Puis, se débarrassant de son bourrenou que le laquais saisit au vol, elle ôta de dessus ses épaules un châle noir d'un assez grand prix et en enveloppa elle-même la solliciteuse, toujours agenouillée. « Mais levez-vous donc, levez-vous, je vous prie !» L'inconnue obéit. « Où demeurez-vous ? Se peut-il que personne ne sache où elle demeure ? » fit impatiemment la générale, en promenant de nouveau ses yeux autour d'elle. Mais le rassemblement n'était plus composé des mêmes personnes que tout à l'heure. C'était maintenant des connaissances de Barbara Petrovna, des gens du monde qui contemplaient cette scène, les uns d'un air aussi étonné que sévère, les autres avec une curiosité narquoise et l'espoir d'un petit scandale. Plusieurs même commençaient à rire. Parmi les assistants se trouvait notre respectable marchand Andreïev. Il était là, en costume russe, avec ses lunettes, sa barbe blanche et un chapeau rond qu'il tenait à la main. « Je crois que cette personne est une Lebiadkine, » dit enfin le brave homme en réponse à la question de Barbara Petrovna. « Elle habite dans la maison Philippov, rue de l'Épiphanie. »« Lebiadkine, la maison Philippov ? J'en ai entendu parler. Je vous remercie, Nikon Séménitch. Mais qu'est-ce que c'est que Lebiadkine ?
Il se donne pour capitaine. C'est un homme inconsidéré, on peut le dire. Cette femme est certainement sa sœur. Il faut croire qu'elle a réussi à tromper sa surveillance. » reprit Nikon Séménitch en baissant la voix, et il adressa à Barbara Petrovna un regard qui complétait sa pensée. « Je vous comprends. Merci, Nikon Séménitch. Ma chère, vous êtes Madame Lebiadkine ?
Non, je ne suis pas Madame Lebiadkine.
Alors c'est peut-être votre frère qui s'appelle Lebiadkine ?
Oui.
Voici ce que je vais faire. Je vais vous ramener chez moi, ma chère, et ensuite ma voiture vous remettra à votre domicile. Vous voulez bien venir avec moi ?
Oh oui !
Acquiesça Marie Timofeyevna en frappant ses mains l'une contre l'autre.
« Tante ! Tante ! Ramenez-moi aussi avec vous !» cria Elisabeth Nikolaïevna.
Elle avait accompagné la gouvernante à la messe, tandis que sa mère, sur l'ordre du médecin, faisait une promenade en voiture et avait pris avec elle, pour se distraire, Maurice Nikolaïevitch. Lisa quitta brusquement Julie Mikhaïlovna
et courut à Barbara Petrovna. « Ma chère, tu sais que je suis toujours bien aise de t'avoir, mais que dira ta mère ?» observa avec dignité la générale Stavrogine, qui toutefois se troubla soudain en voyant l'extrême agitation de Lisa.
« Tante, tante, il faut absolument que j'aille avec vous !» supplia la jeune fille en embrassant Barbara Petrovna.
« Mais qu'avez-vous donc, Lise ?» demanda en français la gouvernante étonnée. Lisa revint rapidement auprès d'elle.
« Ah, pardonnez-moi, chère cousine, je vais chez ma tante !»
Ce disant, Elisabeth Nikolaïevna embrassa par deux fois sa chère cousine, désagréablement surprise.
« Dites aussi à maman de venir me chercher dans un instant chez ma tante. Maman voulait absolument venir. Elle me l'a dit elle-même tantôt. J'ai oublié de vous en parler. »
poursuivit précipitamment Lisa.
« Pardon, ne vous fâchez pas, Julie, chère cousine. Tante, je suis à vous.
Si vous ne m'emmenez pas, tante, je courrai derrière votre voiture en criant tout le temps. » murmura-t-elle avec un accent désespéré à l'oreille de Barbara Petrovna. Ce fut encore heureux que personne ne l'entendît. Barbara Petrovna recula d'un pas. Après un regard pénétrant jeté sur la folle jeune fille, elle se décida à emmener Lisa.
« Il faut mettre fin à cela !» laissa-t-elle échapper.
« Bien, je te prendrai volontiers avec moi, Lisa !» ajouta-t-elle à haute voix.
« Naturellement, si Julie Mikhaïlovna le permet !» acheva-t-elle, se tournant d'un air plein de dignité, vers la gouvernante.
« Oh, sans doute, je ne veux pas la priver de ce plaisir, d'autant plus que moi-même, » répondit très aimablement celle-ci, « moi-même, je sais bien quelle petite tête fantasque et volontaire nous avons sur nos épaules. »
Julie Mikhaïlovna prononça ces mots avec un charmant sourire.
« Je vous suis, on ne peut plus reconnaissante, » dit Barbara Petrovna en s'inclinant avec une politesse de grande dame.
« Cela m'est d'autant plus agréable !» balbutia Julie Mikhaïlovna sous l'influence d'une sorte de transport joyeux qui faisait même monter le rouge à ses joues.
« Qu'en dehors du plaisir d'aller chez vous, Lisa est en ce moment entraînée par un sentiment si beau, si élevé, puis-je dire, la pitié ?»
Elle montra des yeux à la malheureuse.
« Et sur le parvis même du temple ?»
« Cette manière de voir vous fait honneur, » approuva majestueusement Barbara Petrovna. La gouvernante tendit sa main avec élan. La générale Stavrogine ne se montra pas moins empressée à lui donner la sienne. L'impression produite fut excellente. Plusieurs des assistants rayonnaient de satisfaction. Des sourires courtisanesques apparaissaient sur quelques visages. Bref, toute la ville découvrit soudain que ce n'était pas Julie Mikhaïlovna qui avait dédaigné jusqu'à présent de faire visite à Barbara Petrovna, mais que c'était au contraire la seconde qui avait tenu la première à distance. Quand on fut convaincu que, sans la crainte d'être mise à la porte, la gouvernante serait allée chez la générale Stavrogine, le prestige de cette dernière se releva d'une façon incroyable.
« Prenez place, ma chère !» dit Barbara Petrovna à Mademoiselle Lebiatkine en lui montrant la calèche qui s'était approchée.
La malheureuse s'avança joyeusement vers la portière et un laquais l'aida à monter.
« Comment, vous boitez ?»
s'écria la générale épouvantée et elle pâlit. Tous le remarquèrent alors, mais sans comprendre. La voiture partit. De la cathédrale à la maison de Barbara Petrovna, la distance était fort courte. À ce que me raconta plus tard Elisabeth Nikolaïevna, Mademoiselle Lebiatkine ne cessa de rire nerveusement pendant les 3 minutes que dura le trajet. Quant à Barbara Petrovna, elle était comme plongée dans un sommeil magnétique, suivant l'expression même de Lisa.